Un monde sans livres, vous l'avez peut-être déjà envisagé en lisant des livres, justement, d'imaginaire, de science-fiction où la littérature est interdite, oubliée, où elle appartient au passé. Et si un monde sans livres n'a pu être imaginé que dans les livres, c'est peut-être une raison suffisante s'il en fallait pour les protéger. Les livres et ceux qui les écrivent aussi, les auteurs, vous savez, ceux qui touchent à peu près à rien du livre qu'ils ont écrit. 1 euro par livre vendu en moyenne. Les auteurs dont on saisit l'angoisse aujourd'hui plus que jamais face à une constante précarisation dans leurs contrats, face à des charges sociales qui ne cessent d'augmenter, face au futur prélèvement à la source que certains attendent comme le Messie, parce que c'est plus mode, mais qui leur vaudra aux auteurs des pénalités, parce que quand on est auteur, on peut pas vraiment prévoir ce qu'on va gagner, c'est sensiblement plus difficile à déclarer, alors on doit travailler à côté. Mais on peut aussi abandonner, tout est fait d'ailleurs pour vous inciter à abandonner. Même si un monde sans auteur, c'est un monde sans livre. Et pour reprendre la si belle et si juste phrase de l'écrivain péruvien Mario Vargas Llosa lors de sa remise du prix Nobel, ce serait un monde sans désir, sans idéal, sans insolence, un monde d'automates privés de ce qui fait que l'être humain le soit vraiment, la capacité de sortir de soi-même pour devenir un autre et des autres, modelé dans l'argile de nos rêves.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui est-il une espèce en voie de disparition? Après tout, il est auteur de bandes dessinées et de romans, l'un des plus prolifiques de sa génération. Son nouvel album s'appelle Aspirine et il y raconte avec la fougue, la malice, l'esprit qu'on lui connaît, les aventures philosophiques d'une jeune vampire résolument saoulée par son immortalité. Bonjour Johann Svar.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup d'être là. Un monde sans auteur, ça ressemblerait à quoi déjà?
Ça nous arrive déjà. C'est-à-dire qu'on vit un pays où les livres sont très bien protégés grâce au prix unique du livre de Jack Lang et grâce à la TVA sur le livre. Grâce à ça, on a des libraires indépendants, on a un monde culturel et littéraire qui existe encore alors qu'il a été atomisé dans d'autres pays d'Europe. Et depuis 3 quinquennats, le Conseil permanent des écrivains et plein d'écrivains individuellement vont voir les ministres pour dire que les auteurs vont pas bien. Un auteur de littérature qui vend, qui publie des livres, il est à pour 41% en dessous du seuil de pauvreté ou en dessous du SMIC. Il galère énormément et c'est des gens qui n'ont jamais été aidés. Et là, la perspective des normalisations de taxes et de fisc vont tout simplement en précipiter beaucoup hors du métier.
Sur un dessin que vous avez publié récemment sur votre compte Instagram, vous dites que ce qui se joue en fait en ce moment, c'est carrément un choix de civilisation.
Bien sûr. Il y a tout un maillage culturel qui fait qu'on rencontre des écrivains, des auteurs jeunesse, des auteurs de bande dessinée dans nos émissions, dans nos salons, et qui sont des professionnels, qui vivent grâce à leur droit d'auteur. Le droit d'auteur, c'est pas un salaire. Il faut savoir que 88% des auteurs prennent jamais de congé de maladie, 81% des auteurs prennent jamais de congé parental, 41% des auteurs professionnels sont très en dessous du SMIC, et ces gens-là, qui en gros gagnent dans les 10 000 euros par an, voire moins, tout d'un coup, on va dire, pour vous aider, on va vous créer une retraite qu'ils seront bien incapables de prendre, et on va vous prendre 30% ou un mois de ce que vous gagnez dans l'année. Comme ils étaient déjà à 2 doigts d'arrêter, et comme ça fait 15 ans qu'on ne sait plus comment dire au gouvernement qu'on ne s'en sort plus, y a des gens qui arrêtent déjà et qui sont nombreux.
Les choses se sont accélérées. Johann Svar, ça fait plus d'un mois que vous êtes sur le pied de guerre concernant ce sujet, tout comme Samantha Bailly, présidente de la Charte des auteurs et illustrateurs de livres jeunesse, vice-présidente du Conseil permanent des écrivains. Et quel retour est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir de la part du gouvernement, du ministère de la Culture, de la Sécurité sociale, sachant qu'hier, il y a eu concertation?
Non, hier, il n'y a pas eu concertation. Après 5 ans de demande, hier, il y a eu un PowerPoint public dans lequel on nous a assuré non seulement que nos pires craintes allaient être réalisées, et en plus que techniquement, rien n'était prêt dans ces réformes, puisque dès qu'on pose des questions techniques du genre où est-ce qu'on cotise, où est-ce qu'on va, machin, ils ne savent même pas répondre. Et il y a eu hier soir un communiqué proprement stalinien du ministère de la Culture et des Affaires sociales qui dit « Nous avons à cœur la protection des sociale des auteurs, rassurez-vous, on est là. On a très bien compris ce que vous êtes en train de faire. On est une profession qui est en train de crever et vous nous poussez la tête dedans au nom d'une envie de réforme ou de marche ou crève. » Moi, il m'arrive par perversion de me dire ils sont en train de prouver qu'ils savaient être aussi méchants avec les auteurs de bouquins qu'avec les gens de la SNCF pour montrer qu'il n'y a pas de passe-droit. Mais moi, je ne suis même pas là pour protéger les auteurs. S'ils voulaient qu'on crève tous comme on a tué le cinéma italien il y a 20 ou 30 ans, très bien, mais qu'ils le disent. Qu'ils disent on est un gouvernement qui ne veut pas de littérature, qui ne veut pas qu'on vive de la littérature, et c'est comme ça. Mais ils ne disent pas ça. D'un côté, il y a ce discours formidable à Villers-Cotterêts du président, il y a ce discours formidable sur les droits d'auteur au niveau européen, et on a l'impression que le ministère de la Culture et le ministère des Affaires Sociales est en déphasage complet avec ce que dit le président de la République. Alors, l'histoire se rappellera qu'on a eu une ministre éditrice qui a massacré les écrivains.
Qu'est-ce que vous attendez concrètement ?
Rien du tout, parce que je pense qu'ils vont rien faire.
Vous n'y croyez pas ?
Non, mais je voudrais qu'ils aient le courage de le dire. Je voudrais qu'ils aient le courage de le dire. On sait que vous galérez depuis plusieurs quinquennats, puisqu'ils le savent en privé, ils nous le disent. On sait que pour mille raisons politiques, on va rien faire pour vous sortir. Parce qu'évidemment qu'il faudrait des mesures d'exception pour que les gens qui vivent du livre, et on parle de moins de 10 000 personnes en France, il faudrait des mesures d'exception pour les protéger de la même manière qu'on protège les livres. Mais si on dit, ce qu'on est en train de nous dire en ce moment, que le livre et la culture est une marchandise, comme les autres, dans ce cas-là, on ne pourra plus en vivre parce que, c'est évidemment que c'est un miracle de vivre de ces droits d'auteur. Mais qu'ils aient le courage de le dire. Qu'ils aient le courage de dire, on n'en a rien à foutre.
Dans ce combat, Johann Sfar, les éditeurs, ils sont une aide ou ils sont un obstacle?
Les éditeurs vont être obligés de nous aider parce qu'ils vont s'apercevoir que ces taxations qui vont arriver vont leur tomber dessus aussi. Pour l'instant, le SNE, donc le Syndicat National de l'Édition, est complètement silencieux. Moi, j'en appelle aujourd'hui à Vincent Montagne, qui est un type bien, avec qui on s'entend bien, et il faut qu'il s'implique. Il faut qu'on mette à plat, mais ça fait 15 ans qu'on aurait dû le faire. Et que les pouvoirs publics auraient nous aidé. Il faut qu'on mette à plat tout l'argent qui provient de la vente d'un livre, qu'on se demande si c'est normal qu'un auteur ait moins d'un euro sur le prix d'un livre qu'il vend, et qu'on se demande comment on peut faire pour qu'il y ait encore des auteurs professionnels. Ou alors on se dit, bah oui, auteur, ça va devenir une activité d'amateur, et peut-être après tout qu'on peut survivre avec ça.
Qu'est-ce qu'on ressent, Johann Sfar, quand on a le sentiment de prêcher dans le désert ?
Ah, pour moi, aucune surprise. Aucune surprise, je sais très bien que c'est ce qui va se passer et on peut pas bloquer les autoroutes avec nos tables à dessin. Donc c'était tellement triste hier de voir une poignée d'auteurs qui manifestaient devant le ministère, et ils avaient même le sourire aux lèvres tellement ils savaient que ça servait à rien, et ça me fait un chagrin fou en fait. Mais quand on ose nous parler de concertation alors qu'on vient nous lire un PowerPoint comme si on était des bébés,
il s'agit d'une présentation
compris,
là en l'occurrence.
Et en plus, non seulement ils font un PowerPoint, mais ils disent pas les pourcentages, parce que quand les auteurs vont comprendre, parce qu'on se le dit entre nous, que c'est ou 8% ou 13% de nos revenus annuels qui vont aller dans une caisse de retraite à laquelle certains n'auront même pas droit. Les auteurs retraités vont devoir, sur leur droit d'auteur, payer pour une retraite à laquelle ils n'ont pas droit. On est dans des sites, quand on parle avec le représentant du Conseil permanent des écrivains, il sort 50 absurdités comme ça, et les représentants du ministère savent même pas quoi dire, parce qu'en fait, ils se sont pas posé la question. Ils savent juste qu'en 2019, il faudra, à marche forcée, que toutes les professions aillent là-dedans, mais notre profession va crever comme beaucoup d'autres. Alors on va dire c'est pas grave et on verra dans quel monde on se réveille après. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que quand l'Italie a massacré son cinéma il y a une trentaine d'années, il s'est jamais relevé. Donc on est en train de massacrer un miracle. Mais au moins qu'ils disent qu'ils sont fiers de le faire et qu'ils le fassent. Mais qu'ils fassent pas semblant d'un côté de promouvoir la littérature.
Votre nouvelle bande dessinée, Aspirine, Johann Sfar, c'est une œuvre d'imagination. vous racontez l'histoire d'une vampire bloquée à l'âge de 17 ans et qui n'en peut plus d'être une éternelle adolescente. Qu'est-ce qu'elle nous dit de notre époque, d'une certaine génération peut-être aussi, cette Aspirine ?
C'est du merveilleux contrarié. J'essaie de faire de la magie pour les jeunes gens qui sont à l'université, puis qui sont en colère contre tout et puis qui ont quand même envie de rêver. Donc c'est une vampire, elle est vampire depuis 300 ans, elle est très en colère. Même pour une vampire, elle tue trop de monde, elle a des cheveux rouges, mais elle s'appelle pas Melody Nelson. Et puis elle est en colère contre tout le monde.
À 17 ans, vous étiez comment, vous ?
Moi, j'ai pas osé faire de crise d'adolescence parce que mon père me faisait trop peur.
Vous n'étiez pas en colère ?
Non.
On peut être en colère sans faire de crise.
Non, j'étais en colère très discrètement.
En tout cas, jamais au point d'arracher le cœur d'inconnus en pleine rue.
Non, elle fait ça.
Aspirine, c'est une vampire donc, que vos lecteurs assidus ont déjà pu croiser dans votre série du Grand Vampire. Et justement, cette figure du vampire, elle est omniprésente chez vous. Qu'est-ce qui vous obsède à ce point dans cette figure ô combien métaphorique ?
La rage, la colère. J'essaie de le rendre le moins symbolique possible. Quand elle arrache le cœur, je dis non, c'est pas un symbole, c'est qu'à la fin, j'essaie d'être le plus Trainspotting possible dans mon vampirisme.
Et pourquoi est-ce qu'on a besoin des vampires ?
Parce que c'est très agréable de dessiner une fille qui vole au-dessus de Paris et qui en plus n'est pas une fée et qui est un petit monstre.
Ce sont des fantasmes en fait, qu'il s'agit d'exprimer.
Oui, je crois. Puis c'est le côté du Parisien qui est dans une ville de rêve et qui fait la gueule parce qu'il se rend même plus compte que Paris c'est beau. Donc Aspirine, elle est comme ça.
Mais ce sont aussi des fantasmes sexuels, je suppose. La femme vampire chez vous, c'est une vampe, c'est une séductrice.
Non, il n'y a pas beaucoup de sexe dans Aspirine. D'abord parce que elle, ça l'intéresse pas. Ensuite parce que le mec qui est amoureux d'elle, il est même pas amoureux. Il dit qu'il voudrait juste être son serviteur. Donc vraiment, tout est très contrarié dans le monde d'Aspirine.
Qu'est-ce qui vous vampirise, vous ?
Moi, le dessin, mais c'est un vampirisme joyeux. J'ai vraiment de l'encre qui coule dans les veines et ça me rend très très heureux.
Comme du sang ?
Comme du sang.
Celle qui vous vampirise, celle qui nous vampirise dans cette émission, je vais vous dire qui c'est. Sans doute la connaissez-vous, c'est la culture. Et son actualité qui nous arrache le cœur, nous ronge les sangs et nous laisse exsangues chaque matin, c'est épuisant. Mais sommes tout assez jouissifs, que se passe-t-il donc aujourd'hui, vendredi 22 juin ?
Par là, une chose est sûre, c'est qu'il passera pas par moi. Football, faut te protéger. La
Il est passé par ici, il est passé par là, mais une chose est sûre, c'est qu'on continuera de lutter contre le sida. Le festival Solidays fête ses 20 ans d'engagement. En deux décennies, il a permis de récolter plus de 25 millions d'euros. Cette année, 80 concerts et 3 jours de teuf sont au programme. On attendait Kills, Eddie Depreto, Arnaud Robotini, Clara Luciani, Juliette Armanet, Ayam ou Niska. Allez là! Free Sentsov en visite à Moscou. Le secrétaire général du Conseil de l'Europe a appelé les autorités à gracier le cinéaste ukrainien Oleg Sentsov, condamné à 20 ans de prison après s'être opposé à l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014. Depuis le 14 mai, Sentsov fait une grève de la faim pour exiger sa libération et celle d'autres prisonniers politiques ukrainiens détenus dans les camps russes. Le foot c'est bien, les droits de l'homme c'est mieux. So Sad, le morceau Sad du rappeur XXXTentacion, tué lundi en Floride, a battu le record du titre le plus streamé en une journée sur Spotify. Le 18 juin, jour de la mort de l'artiste de 20 ans, c'est près de 10,5 millions de clics qui ont été enregistrés sur la plateforme, surclassant Look What You Made Me Do de Taylor Swift. Le mois dernier, Spotify avait radié de ses playlists l'œuvre de XXXTentacion, accusé de violence conjugale, avant de revenir sur sa décision sous la pression de Kendrick Lamar. Alors on danse. Alors on danse à Montpellier, la 38e édition du festival de danse commence aujourd'hui dans la capitale de l'Hérault. Jusqu'au 7 juillet, l'événement mêle spectacle, ateliers et grandes leçons de danse. Parmi les incontournables, Anne-Thérèse Kersmaker, la chorégraphe Paola Pi ou l'hommage à la grande Trisha Brown, disparue l'année dernière d'enfer. Johan Sfar, invité de Boomerang ce matin pour Aspirine, sa nouvelle BD vampirisante à souhait, ça c'est certain. Et c'est l'heure d'un point Johan quand même, parce que vous pouvez pas commenter l'actualité comme vous le faites sans en faire profiter. Boomerang, qu'est-ce qui vous inspire dans cette actualité de la culture que je viens juste de déployer? Est-ce que c'est plutôt Solidays, Oleg Sentsov? Est-ce que c'est plutôt le morceau Sad et Spotify? Ou alors carrément la danse, le festival de danse?
Tout, mais la Russie, ça me passionne. La Russie, ça me passionne. Ça a été le dernier pays alphabétisé en Europe et le pays alphabétisé le plus vite. Donc ils ont une passion pour la littérature et une dinguerie qui me rend fou. Et j'ai une passion coupable, contrariée et anxieuse pour la Russie. C'est quelque chose d'essentiel pour moi.
Oh, de plus en plus anxieuse, non?
Oui, mais c'est important qu'on réapprenne à se parler avec les Russes et à se comprendre et à tisser des liens parce que j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus importants pour nous qu'on le croit.
Cette histoire de Oleg Sentsov, cette vérité, cette réalité, vous pensez que ça serait matière à dessin, justement?
Je pense qu'il y a du Frankenstein politique partout en ce moment et dans tous les pays, on fout en l'air nos limites de l'acceptable. C'est-à-dire qu'il y a du monstrueux qui arrive. Il se passe pas 10 fois par jour où on se dit pas tiens mais ça c'est Handmaid's Tale, la série américaine où tout le monde est maltraité ou machin. Et le Frankenstein politique partout, ça me terrorise. Je fais même plus de dessins d'humour d'ailleurs là-dessus quand on voit ce qui se passe en Italie, ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe chez nous avec les migrants. Je veux pas être le mec qui dit le camp du bien tous les jours. Ça m'énerve parce que les gens quand on leur dit ça c'est moral, ça il faudrait le faire, ça les énerve encore plus. Je suis très sec sur le vrai monde, je sais pas ce qu'il faudrait dire aujourd'hui.
Ça vous ferait prendre des aspirines. Ah ouais, pourquoi aspirine d'ailleurs?
Parce qu'elle est très pâle. Mais moi je vais pas chercher loin les noms des
personnages. Pourquoi pas Doliprane, pourquoi pas Efferalgan ou tout simplement paracétamol, Johan?
Ah bah sa sœur s'appelle Josacine, donc je reste dans la médication.
Aspirine, c'est donc le nom de cette jeune vampire qui a 17 ans depuis 300 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que vous en faites une étudiante en philo, tout comme vous l'avez été naguère. D'ailleurs, pourquoi est-ce que vous êtes tournée vers la philosophie vous au départ?
Bon, parce que mon père voulait que je fasse des études et je voulais pas faire de droit. Et bien m'en a pris. J'ai eu la chance d'avoir Clément Rosset comme professeur et il a vraiment changé ma vie. Alors elle, c'est terrible parce qu'elle, Aspirine, les philosophes, elle les connaît. Elle sait comment Jean-Paul Sartre a perdu son œil. Elle sait que Jean-Jacques Rousseau était très pénible. Elle a fréquenté Hegel, elle le trouvait extrêmement fatigant. Et le prof de philo, elle la croit pas. Il lui dit, oh, mais quelle invention, vous êtes formé. Alors elle va le foutre en haut d'un immeuble et dire, bon, bah, maintenant je te jette par la fenêtre et tu vas te rendre compte que je suis une vraie vampire. Son problème, c'est le temps. Alors les leçons de sagesse, ça l'énerve tellement.
Vous avez été satisfait de votre enseignement de philosophie?
Bah non, on peut pas, parce que le métier d'un prof de philo, c'est de vous dire j'ai de réponse à rien, l'Occident c'est le doute, et ça conduit des tas d'abrutis à dire mais il y a un vide spirituel en Occident. Au contraire, non, il y a une vraie connaissance des limites de ce que le cerveau humain peut acquérir, donc c'est forcément décevant la philosophie.
Alors vous êtes arrivé de vous rebeller, justement, de vous emporter, bon pas au point d'aspirine, mais bon.
Ah oui, mon emportement il consistait à aller lire Sherlock Holmes, parce que chez Sherlock Holmes on trouve le coupable de temps en temps, donc je lisais de la fiction.
En fait, ce que dit Aspirine, c'est assez passionnant, c'est que les questions que se pose la philosophie n'ont de sens que si on est mortel.
Oui, c'est ça. C'est ça. Elle vit pour toujours, donc c'est d'autres réponses qu'il lui faudrait. Donc elle se crée un monde d'imaginaire, elle va jouer à des jeux de rôle avec ce garçon qui lui court après et qu'elle appelle son serviteur, et elle cherche où mettre sa rage.
Quand est-ce que vous vous sentez mortel, vous, Johan Sfar?
à moi tout le temps, mais les adolescents non. Les adolescents, ils ont l'impression d'être pour toujours dans le merdier où ils sont, donc ils bouffent leur potentiel de vie. Moi, ce qui m'intéresse dans Aspirine, c'est traiter la morbidité des adolescents, c'est-à-dire la manière qu'ils ont de gâcher leur moment de vie avec du désespoir, et ça m'intéresse.
La mort qu'Aspirine promène au bout de ses dents pointues, elle vous fait peur, vous, aujourd'hui ?
Bon, ça fait pas très plaisir, hein. Moi, moi, j'aime les fruits, j'aime la vie, j'aime le soleil, donc je dessine des vampires, c'est logique.
Mais moi, c'est vrai qu'en lisant votre BD, je me suis dit que j'aimerais bien être immortel. En fait, pour avoir cette possibilité de croiser des gens que je rencontrerai jamais, et surtout ceux qui sont pas encore nés.
Oui, et puis le plaisir d'Aspirine, c'est qu'elle peut se suicider 15 fois par jour, ensuite elle remonte et elle continue à emmerder tout le monde.
Donc c'est très étrange. C'est très étrange. Quel artiste, quel philosophe disparu est-ce que vous auriez rêvé de rencontrer, vous ?
Pour ma part, Hugo Pratt. Je suis allé voir l'exposition Hugo Pratt à Lyon il y a 3 semaines. J'avais les larmes aux yeux. C'est le plus grand dessinateur de bande dessinée et c'est sans doute le plus grand plasticien du XXe siècle à mes yeux.
Mais son œuvre reste un enseignement.
Ouais, mais j'aurais quand même bien aimé faire la fête avec lui parce qu'il avait l'air bien rigolo.
À faire la fête?
Oui.
Vous auriez dit quoi?
Rien. On parle pas d'art avec un artiste. On boit, on rit, on admire. Ou Fellini aussi, mais on parle jamais travail avec un artiste. Ça se fait pas.
Vous pouvez lui poser des questions détournées.
Ça se fait pas.
C'est ce que j'essaye de faire. On va continuer à se poser des questions, tiens, d'immortalité, de jeunesse, de temps qui passe, avec Psyche, avec Bob Dylan. Forever Young, 1974, vous êtes sur France Inter avec Johan Sfar, vous écoutez Boomerang.
May God bless and keep you always, may your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung. And may you stay forever young. May you stay forever young. May you grow up to be righteous, may you grow up. See the light surrounding you. May you always be courageous, stand upright and be strong. And may you stay forever young. May you stay forever young. May your hands always be busy, may when the winds of change shift. May your heart always be joyful, may your song always be sung. And may you stay forever young. May you stay forever young.
Sur France Inter. Augustin Trapenard.
Il est comme d'habitude, hein, sans filer une nouvelle fois la métaphore féline, on se contentera d'évoquer cet air avide, de gratouille derrière l'oreille, cette façon un petit peu langoureuse, vous savez, mais non moins perçante de vous scruter, cette souplesse dans le geste et la posture qui laisse présager d'un don pour toutes sortes de jeux, courir après un bout de ficelle, grimper aux arbres, dépecer un oiseau, car il est très joueur ce matin avec son polo noir. Johan Sfar, invité de Boomerang, pour Aspirine, sa nouvelle BD, l'histoire, on l'a dit, d'une jeune vampire coincée en pleine crise d'adolescente qui déteste à peu près tout le monde. Et ce qui frappe, comme souvent chez vous, c'est ce bouillonnement de dessins et de textes. Est-ce que votre plume parvient à suivre la vitesse de vos idées ?
C'est toute la question. Grâce au dessin animé, parce que je travaille sur des dessins animés par ailleurs, j'ai été amené à modifier beaucoup mon dessin en disant comment faire pour que ça bouge, comment faire pour qu'on la voie sauter d'un toit, donner des coups de pied, jeter un couteau. Donc il faut à la fois crayonner très vite, changer de plan comme on ferait au cinéma, et ensuite ancrer de manière assez, entre guillemets, soignée pour que les jeunes lecteurs puissent venir, parce que c'est avant tout pour les ados, Aspirine, j'espère que tout le monde peut lire, mais c'est avant tout pour ados. Donc il y a le dessin animé vient me bouleverser. Je fais du dessin animé depuis une quinzaine d'années, mais maintenant je commence enfin à écouter mes animateurs. Quand ils me disent « Johan, c'est pas comme ça qu'on fait », je me dis « Merde, si ça se trouve, j'ai rien compris au dessin, il faut faire comme eux », c'est-à-dire moins de squelette, plus de mouvement. Moi, je viens du squelette. Et donc je négocie avec l'animateur qui est en train de naître en moi.
Et vous travaillez sur des bandes dessinées pour faire du dessin animé que vous avez déjà écrit auparavant, ou alors ce sont de nouvelles idées, de nouveaux projets?
En dessin animé, on fait Petit Vampire, qui est une BD qui revient en ce moment.
Donc une adaptation.
Voilà, on adapte, on réinvente, on réécrit. Mais vraiment, ça bouleverse le dessin. Moi, mon dessin, il venait du travail d'après nature. Travailler pour l'anime, c'est d'imagination, faire bouger un personnage. Alors en bande dessinée, forcément, ça influence.
Mais moi, je vous connais, vous ne vous arrêtez jamais. Vous travaillez tout le temps, vous avez des idées qui viennent. La question que je vous pose, elle est assez simple, Johan Svar. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des idées que vous n'avez pas le temps de mettre en image?
Oui, beaucoup. J'ai un roman d'heroic fantasy de 800 pages qui est toujours pas publié parce qu'il tient pas debout et on n'arrive pas à le retravailler. Il y a deux motivations. La première, je pense vraiment que j'ai des trucs à raconter et des histoires qui me tiennent à cœur. Et la deuxième, je suis jamais content de mon dessin, donc je veux toujours faire la page d'après, la page d'après, la page d'après. Je suis même pas sûr de progresser d'ailleurs, mais je réfléchis à la page d'après. Donc c'est ce double mouvement, et peut-être je suis pas très doué pour la vie quotidienne, donc j'ai besoin d'être tout le temps dans mes livres, oui.
Avec quoi vous travaillez en ce moment? Crayon, stylo, palette graphique?
Je travaille avec un stylo fontaine japonais, parce que les plumes normales, mes chats me les foutent en l'air et renversent les encriers. Et dans ma nouvelle maison, on va mettre une porte vitrée pour que les chats ne puissent plus entrer dans le bureau, pour que je puisse reprendre enfin un encrier et une plume.
C'est toujours le même outil pour toutes les BD, pour tous les projets?
Non. Plume, pinceau, feutre et stylo fontaine.
Mais pour Aspirine, c'est le stylo fontaine.
Ouais.
Qu'est-ce que ça apporte en plus?
Bah, les chats peuvent pas renverser l'encrier, puisque l'encre est dans le stylo.
Mais dans le trait?
Non, ça change rien.
Et c'est juste un stylo, en fait, avec de l'encre qui...
Oui, c'est les stylos comme avaient les notaires avant, sauf qu'on peut mettre de l'encre indélébile dedans maintenant, grâce aux Japonais qui ont inventé une encre indélébile. Et voilà.
Vous sentez-vous un peu notaire quand vous dessinez Aspirine?
J'aimerais bien. Tout ce qui fait rond de cuir, j'aimerais bien avoir des petites vestes avec des ronds de cuir et tout.
Il est là, le fantasme ultime, en fait.
Mais non, mais l'idée de gratter le papier, ça me plaît beaucoup. L'idée de remplir la case, ensuite on se sent mieux, on a l'impression d'avoir terminé un formulaire ou quelque chose. Moi, j'aime bien le côté un peu comme ça, là.
Combien de temps vous mettez pour faire un album comme Aspirine?
Aspirine, il y a 140 pages, ça a été long. J'ai mis à peu près un an à le faire, mais entre d'autres boulots.
Il y aura plusieurs tomes?
Alors, c'est une histoire qui se finit, mais il y aura peut-être d'autres aventures d'Aspirine.
Moi, je vous connais quand vous dites peut-être, il y en a 7.
Bon, j'en ai écrit une autre, mais maintenant il va falloir la dessiner.
Dis donc, les scoops, ils arrivent vite.
Mais c'est pas des séries, c'est des histoires qui se bouclent, pour pas que mes lecteurs ensuite soient en colère si ça paraît pas tout de suite.
Est-ce que parfois, vous arrêtez, vous butez, vous abandonnez?
Quand une histoire n'est pas là, il ne faut pas commencer à l'écrire. En tout cas dans mon cas, j'attends qu'elle soit entièrement dans ma tête et là j'écris. Et parfois, il y a eu 7-8 ans sans Chat du Rabbin et tout d'un coup j'ai eu une idée, j'en fais un. Et je laisse vraiment faire les personnages.
Il faut dire la chose, il faut dire la vérité aux auditeurs. Il n'y a pas que des vampires dans Aspirine, il y a aussi un humble mortel en admiration devant elle et qui va devenir, vous le disiez tout à l'heure, son serviteur. Alors il est intéressant ce personnage parce qu'il est étudiant philosophe, un petit peu marginal, un petit peu geek. Il écrit des livres et il joue à toutes sortes de jeux et notamment au Warhammer. Alors peut-être nous expliquer ce que c'est, Johan, le Warhammer.
Alors il s'appelle Yidgor et il commence l'histoire en disant « J'aurais voulu vivre à une autre époque, j'aimerais qu'il m'arrive quelque chose de magique ». Et lui, il fait des jeux de rôle et il fait aussi des wargames, donc c'est des jeux avec des gobelins, des monstres, des machins qui se battent sur un truc. Et il dit « C'est le seul endroit où on rencontre jamais une fille ». Les filles font des jeux de rôle, aujourd'hui elles font des jeux vidéo, mais elles vont pas aux conventions Warhammer. Et ben, Aspirine, c'est celle qui y va et qui dirige le régiment des vampires. Et elle les bat tous. Voilà.
Il vous arrive d'y jouer, vous, à ce jeu?
Moi, je joue au jeu de rôle. J'y joue depuis toujours. Et là, je me suis mis à Donjons et Dragons, qui est le seul jeu que j'avais jamais joué. Et j'y joue avec mon fils et les amis de mon fils.
Dans quelle mesure ça imprègne votre dessin?
Ça imprègne mes histoires. Parce qu'on pense à tous les personnages et on ne sait jamais ce qui va se passer un instant après. Donc, c'est l'inverse des récits structurés de manière théâtrale. C'est au contraire de l'existentialisme, du vitalisme du personnage et une manière organique de raconter. Je pense que c'est très formateur pour les jeunes gens de faire des jeux de rôle.
Mais vous êtes qui, vous, dans ces jeux de rôle?
Moi, je raconte l'histoire. Je suis le meneur de jeu.
Ah bon?
Ah oui, je leur dis, alors là, vous entrez dans un donjon, la porte s'ouvre et on te coupe toutes tes charges sociales, qu'est-ce que tu fais?
Il est terrible, votre jeu de rôle, Johan Svar. En tout cas, cette composante du jeu, elle n'est pas innocente. Voilà ce que dit ce personnage de gamer qui est aussi écrivain. L'expression « je joue seul », je l'emploie pour évoquer les moments où j'écris mes romans. Les gens qui disent « j'écris », je les aime pas. J'aime mieux dire « je joue », car en vrai... Je sais pas ce qui va arriver à mes personnages.
Oui, c'est ça qu'il fait. Il écrit ses romans, il le fait comme un jeu et il sait pas ce que va faire chaque personnage. Il publie pas, il fait ça pour lui. Et à un moment, il a l'idée d'une scène de cul ou d'une scène qui l'excite et il dit « Ah non, ça je peux pas le mettre, c'est sexiste ». Et en fait, il s'auto-censure lui-même dans ses propres fantasmes. Et il me semblait que ça résumait bien l'époque.
Oh là là, vous me tendez des perches monumentales là. C'est ça que vous parlez de vous en fait.
Je parle de nous tous quand on écrit une histoire et qu'on se dit est-ce que ça c'est acceptable? Est-ce que le personnage a le droit de faire ça? Or, s'il y a un refuge pour la sauvagerie, c'est bien la littérature. Et l'idée qu'on se demande a priori si nos œuvres sont acceptables, c'est le meilleur moyen de jamais plus rien inventer.
Alors quel jeu est-ce que c'est, la littérature?
jusqu'où on peut aller, comment faire pour emporter le lecteur avec soi tout en modifiant ses habitudes, est-ce que ça se tient, mais est-ce que ça se tient et que c'est pas trop classique. Donc c'est des questions dont on n'a jamais les réponses. C'est un jeu avec le doute, un auteur sûr de lui, ça n'aurait pas grand intérêt.
Et puis c'est un jeu extrêmement solitaire.
C'est tout le paradoxe, on est seul toute la journée et dès qu'on nous sort pour rencontrer des gens merveilleux comme vous, on se dit mais c'est bien de voir ses semblables.
Qu'est-ce que ça représente la solitude ?
C'est agréable.
Bon, c'est vrai ?
On me fout une paix royale, dès que je dis non je dessine, tout le monde respecte.
Aucune tristesse, jamais ?
Jamais. Jamais quand je dessine, en tout cas dans la vraie vie, oui, plein tout le temps.
Et il vous arrive de sortir justement de votre tanière quand même pour vous confronter à l'autre ?
Bah oui, je suis très sociable dès qu'on me sort de là, j'ai envie de parler, j'ai envie de voir les gens, j'ai envie de les tripoter. Ah non, tripoter, faut pas. Tout ça, mais quand je dessine, je peux tripoter parce que c'est imaginaire.
Vous jouez là ?
Bien sûr, je suis le clown.
Ouais, vous faites le clown. Mais ça pose des questions qui sont quand même assez passionnantes. Ça fait deux fois que vous y revenez.
Je pense que le combat pour la liberté et l'égalité de chacun, c'est le plus important du monde. Ce qui me préoccupe, c'est qu'on se fait croire qu'on va se débarrasser de la sauvagerie et du péché. Mais enfin, on serait plus des humains s'il y avait plus le mal. Moi, je crois pas qu'on puisse éradiquer le mal. Je me méfie quand tous les jours on dit attention, le bien c'est là, attention à pas mettre les pieds hors des clous.
C'est le politiquement correct, hein, tout américain qui vous gêne.
Bah, c'est la bonne conscience qui consiste à dire, bon, on a réglé le problème du crime, ça c'est fait. Ça s'appelle, on n'a jamais lu un roman russe. Et c'est préoccupant. C'est préoccupant.
Ce que vous dites en creux, surtout, c'est que ça n'est pas la bonne stratégie, en fait.
Oui, c'est ça. J'ai le sentiment que c'est le bon combat. J'ai l'impression qu'on le mène en faisant des leçons de morale qui produisent l'inverse. En fait, quand la vraie vie ressemble pas à ce qu'on se raconte, c'est qu'on n'a pas combattu de la bonne manière.
Peut-être la solution, c'est de rester seul, alors.
Moi, j'aime bien.
Non, mais en fait, ce spectre de la solitude, Johan, il plane sur bon nombre de vos œuvres, y compris dans Aspirine, avec cette figure de vampire qui est condamnée à ne jamais vraiment se mêler aux autres. Mais le dessin, l'écriture, ce sont aussi des façons d'aller vers les autres.
Oui, bien sûr. Bien sûr. On a tout ce qu'on a envie de dire, on le dit dans les personnages. Et c'est pas un hasard si les écrivains souvent rencontrent des lecteurs qui sont aussi solitaires qu'eux, qui disent, tiens, je suis dans mon coin et tout d'un coup, tes personnages m'ont parlé. C'est des choses qu'on n'ose pas se dire dans la vraie vie. C'est pour ça que c'est bouleversant les moments où on rencontre nos lecteurs pour les séances de dédicace.
Et vous passez énormément de temps avec eux. J'ai reçu encore hier des messages d'auditeurs qui étaient enchantés à l'idée que vous veniez dans Boomerang et qui me disaient, Johan Sfar, c'est un des rares auteurs qui reste longtemps.
Moi, j'y vais beaucoup parce qu'en fait, on se dit jamais rien. On est tout content de se voir, on est tout ému, on se fait un petit dessin, mais on n'ose rien se dire du tout. Alors, j'ai des collègues qui ont la bravoure, comme Amélie Nothomb, par exemple, de répondre aux gens, de dire, moi j'ose pas, d'abord ça me bouleverse trop, ensuite je saurais pas quoi dire. Mais les rencontres avec les lecteurs, c'est très beau parce que on se rencontre à travers un mur infranchissable, à travers la bouteille à la mer que constitue le livre ou le dessin. On leur fait un petit dessin, c'est pas grand chose. Ils viennent nous voir, c'est pas grand chose. Mais c'est ce qui me motive quand je dessine. Quand je dessine, je pense en particulier aux gamins. Quand on a la chance de travailler pour la jeunesse et qu'on voit arriver des gosses qui se construisent avec les livres, qui mélangent vos ouvrages avec ceux d'autres personnages, qui me demandent, parce qu'ils en ont rien à foutre que ce soit moi, de leur dessiner Titeuf et je leur fais avec plaisir. Je les fais mal parce que je dessine moins bien que Zep. Ou alors, quand j'ai fait les Fables de La Fontaine pour les élèves de CM2, je vais les voir, je leur parle pendant une heure de Jean de La Fontaine et ils me disent, monsieur, c'est toi qui as écrit le livre. Voilà, ça, c'est les moments que j'aime le plus.
Qu'est-ce que vous avez l'impression de partager, en fait? Avec vos lecteurs invisibles, intouchables.
C'est la rencontre de personnes qui ont envie qu'on leur raconte des histoires. Et le vrai secret, c'est que ceux qui ont le plus envie qu'on leur raconte des histoires, ce sont les écrivains. On a ça en commun. Moi, je ne sais pas ce que c'est un écrivain. En fait, on est tous des lecteurs. Et ça, je trouve ça très joli.
On en revient à notre interrogation du début de cette émission. Vous savez ce que c'est qu'un auteur, en revanche?
C'est pas normal de vivre de ses droits d'auteur. C'est pas un dû. C'est un miracle qui existe depuis une centaine d'années. Ce serait juste dommage qu'il s'arrête. Donc ce qu'on dit, c'est pas des revendications. On dit, si vous voulez que ce truc-là s'arrête, des auteurs professionnels, continuez parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer.
C'est paradoxal, quelque part, de vous entendre, de vous voir vous engager, comme ça, vous, Johan Sfar, qui prenez beaucoup de distance avec le statut d'écrivain.
Tout simplement parce que, entre guillemets, les auteurs moins connus se battent comme des chiens depuis des années et personne ne les écoute et ils viennent chercher les têtes de gondole parce qu'ils disent sinon on nous écoute pas. Donc, moi j'ai de la chance, je publie beaucoup de livres et ils se vendent pas trop mal, donc moi je vais très bien. Mais je peux pas, j'enseigne les bandes dessinées en ce moment aux Beaux-Arts. J'ai pas envie de dire à mes élèves qu'ils arriveront jamais à vivre des bandes dessinées et si on fait rien, c'est ce qui va se passer. Je précise que je parle des gens qui publient et qui vendent des livres et qui enrichissent l'industrie du livre. L'industrie du livre est très florissante. La culture en France rapporte davantage que l'industrie automobile. Donc on est dans un système qui marche très bien et ceux qui se font marcher dessus, c'est les auteurs. C'est bizarre quand même.
On vous aura entendu, en tout cas ce matin sur France Inter. Merci infiniment,
Merci
Joanne.
Merci beaucoup.
D'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que votre Aspirine est publiée aux éditions Rue de Sèvres. Je rappelle également que le combat pour la défense du statut social, du régime des auteurs continue. Et j'espère que vous aurez été entendu par les auditeurs de Boomerang. Merci à vous et toute l'équipe de Boomerang. D'ailleurs, Lola Costantini à la réalisation, Valentine Chedebois à la programmation, Léonard Billot, Pierre Martinery, Maud Ventura, Jean-Baptiste Audibert. À lundi, les amis, pour la dernière semaine de cette saison. Tout de suite, les médias, Sonia De Villers, juste après ça.
Je suis la fille sans joie d'un demain sans fête, une larme sans poids, une boîte sans lettres. Je suis piscine de bar, une piscine d'hôtel, sur mes côtes d'azur s'échouent les âmes faibles. Ma salive sans le chlore, mon lit décontamine. On s'y pousse, on s'y mêle, on y commet des crimes. Je suis piscine de sang, une piscine qui sait se taire et faire semblant.
Sur France Inter, et c'est l'heure de Sonia De Villers.
On va se baigner ?
Il est grand temps que ça s'arrête, Sonia, cette histoire.
Pourquoi on n'irait pas se baigner ?
On va se retrouver lundi matin, parce que là, vous m'effrayez. Hein, vraiment.
On va saluer Augustin.
À lundi.
Ciao.